cette vérité que nous sommes vraiment enfants de Marie est une conséquence directe du mystère de l'union profonde qui existe entre le Christ et l'Église. Nous sommes tellement les membres du Christ. C'est tellement vrai de dire avec Jeanne d'Arc à Rouen que le Christ et l'Église, c'est tout un. Nous sommes tellement les membres du Christ que Marie, qui a mis au monde la tête du corps, doit mystérieusement mettre au monde encore les membres du corps. Sinon, ça ne serait pas vrai de dire que nous sommes les membres du Christ. Et si Paul VI a tenu, un an avant la fin du Concile, à déclarer solennellement que Marie était mère de l'Église, ce n'était pas pour le plaisir d'ajouter un titre à la liste déjà longue des titres que nous donnons à Marie dans ses litanies, mais c'est parce que dans un concile essentiellement consacré à l'Église et au rapport entre l'Église et le Christ, entre l'Église et le monde, il était bon d'affirmer Marie, mère de l'Église. Affirmer cela, c'est dire quelque chose sur le Christ. Il y a une telle unité entre le Christ et l'Église que Marie, mère du Christ, est également mère de l'Église. Donc nous avons le droit de penser avec Grignon de Montfort ou le père Colbé qui a repris et développé sa pensée, que nous sommes en Marie. Une autre façon de présenter, de balbutier quelque chose autour de ce mystère, c'est de réfléchir longuement sur le rôle de Marie dans l'incarnation du Verbe. Pour nous sauver, il fallait que Dieu, que le Fils de Dieu prenne corps dans le sein de Marie. Mais non seulement qu'il prenne corps dans le sein de Marie, mais qu'il apprenne à devenir un homme au contact de Marie et de Joseph. Car il avait beau être le Fils de Dieu, il ne savait rien faire, le petit Jésus. Il ne savait pas parler, il ne savait pas marcher, il ne savait pas prier. J'aime imaginer Marie apprenant à l'enfant Jésus à prier. « Dis, maman, comment faut faire pour prier ?» Et voilà que Jésus se trouve sur les genoux de Marie et apprend à prier. Dieu apprend à prier grâce à une femme nommée Marie. Elle a réussi un CAP qu'aucun de vos enfants ne réussira, le CAP d'éducatrice spécialisée du Fils de Dieu fait homme. Un CAP qu'on ne prépare qu'à Nazareth. Répète bien, Yeshua, dis bien après moi, Shema Israël, Adonai Elokeinu, Adonai Echad. Écoute, Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique. Tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Et voilà l'enfant Jésus qui apprend sa prière de juif sur les genoux de Marie. Vous comprenez que, après avoir formé une telle éducatrice, le bon Dieu n'allait pas la mettre à la retraite. Pour moi, le 15 août, ce n'est pas Marie qui va dans le ciel jouir de la récompense qu'elle a méritée pour les bons et loyaux services rendus à la Trinité durant sa vie terrestre. C'est Marie qui est mise en état de continuer son travail. Seulement, au lieu de permettre au Fils de Dieu de devenir un homme, elle va permettre aux hommes de devenir fils de Dieu. Elle a collaboré avec le Saint-Esprit pour l'humanisation du Verbe. Désormais, elle va collaborer avec le Saint-Esprit pour la divinisation des hommes. Bien sûr qu'elle ne se prend pas pour le Saint-Esprit. Bien sûr, elle est une simple créature, mais l'Esprit-Saint a voulu s'associer la Vierge Marie dans l'éducation du Fils de Dieu. Eh bien, l'Esprit-Saint veut s'associer la Vierge Marie dans l'éducation des enfants de Dieu. C'est cette idée très forte mise en valeur par Maximilien Kolbe. Et le père Kolbe a même été le premier, à ma connaissance, à comprendre pourquoi la très sainte Vierge avait si mal parlé à Lourdes. Le 25 mars 1854. Vous savez que c'est le 25 mars, en la fête de l'Annonciation, que Marie a enfin donné son nom à la petite Bernadette. Elle s'est rendue à la grotte en la fête de la Vierge, en la fête de l'Annonciation. Et alors, enfin, ce jour-là, Marie donne son nom en disant, en patois du pays, « Je suis l'Immaculée Conception ». Et c'est ce qui a décidé le père Amal à croire aux apparitions parce qu'il s'est dit « La gamine n'a pas pu inventer cela. » Surtout que je n'avais jamais parlé au catéchisme de ce mystère de l'Immaculée Conception qui venait d'être proclamé par le pape 4 ans auparavant. Et justement, ce qui l'a frappé, c'est la façon un peu bizarre dont Bernadette a à rapporter les paroles de la Vierge. La Vierge aurait dû dire « Je suis immaculée depuis ma conception » ou « J'étais immaculée dans ma conception, mais je suis l'Immaculée Conception ». Quelle façon bizarre de parler. Or, le père Kolb s'est rendu à Lourdes fin janvier 1930, avant de partir en Extrême-Orient fonder le Chevalier d'Immaculée, en japonais, à Nagasaki. Il a fait un petit pèlerinage en France pour visiter trois lieux qu'il tenait absolument à visiter avant de partir là-bas. Lisieux, Paris, Lourdes. Lisieux, évidemment, pour recommander tout son ministère, tout son apostolat d'Extrême-Orient à la petite Thérèse, qu'il aimait tant. Paris, pour visiter la rue du Bac. Et Lourdes, pour remercier la Sainte Vierge de l'avoir miraculé et de lui avoir permis de devenir prêtre. Car pendant la guerre 14-18, lorsqu'il était étudiant à Rome, le père Kolbe a eu le pouce infecté. Le chirurgien voulait le lui couper. Et de ce temps-là, quand un homme était privé d'un pouce, il ne pouvait pas devenir prêtre. On estimait qu'il ne pouvait pas bien tenir l'hostie au moment de la consécration. Il a supplié la Sainte Vierge de le guérir en mettant de l'eau de Lourdes sur son doigt. Son doigt a été sauvé. On comprend qu'il est venu remercier la Sainte Vierge à Lourdes fin janvier 1930. Or, ce jour-là, il est frappé par le disque qu'il voit autour de la tête de Marie. « Je suis l'Immaculée Conception ». Ah, il dit, mais c'est génial. « Je suis l'Immaculée Conception », c'est le mot que le Saint-Esprit peut dire de lui-même. Et c'est toute la théologie trinitaire du père Kolbe. En Dieu, le Père est celui qui conçoit, le Fils est celui qui est conçu, et le Saint-Esprit, c'est l'acte d'amour éternel dans lequel le Père conçoit son Fils. Eh bien, il y a une telle connivence, une telle complicité entre Marie et le Saint-Esprit que la Sainte Vierge ose s'appeler l'Immaculée Conception, le mot qui convient éminemment au Saint-Esprit. La Sainte Vierge est tellement l'associée de l'Immaculée, tellement l'icône, qu'est-ce que j'ai dit ? La Sainte Vierge est tellement l'icône du Saint-Esprit, tellement associée au Saint-Esprit, qu'elle ose s'appeler l'Immaculée Conception. Et chose merveilleuse, c'est la veille du jour où il a été emmené définitivement par la Gestapo à Auschwitz, pour mourir, vous le savez, dans le bunker de la faim, qu'il a mis sur papier tout ce qu'il avait découvert, comme cela, et mijoté pendant des années, à propos de Lourdes. Donc, Marie est associée à l'Esprit-Saint pour nous enfanter. Et vous avez tout à fait le droit, lorsque vous regardez une icône de Marie ou une statue de Marie, de penser que vous êtes dans les bras de Marie. Ce n'est pas du tout de la mièvrerie, du sentimentalisme. Un homme aussi homme et aussi énergique que le père Kolbe osait se représenter comme porté dans les bras de Marie. C'est fondamental dans la piété chrétienne. Bon, que vous soyez allergique à cette représentation, je ne vous en veux pas, vous êtes au stade de Jean-Paul II à 20 ans. Je connais beaucoup de chrétiens qui ne supportent pas la doctrine du père Kolbe ou de Grignon de Montfort parce qu'ils disent que ce sont des élucubrations sentimentales, alors que c'est tout simplement la logique du mystère de l'incarnation et de l'unité, de l'union entre le Christ et l'Église. Et si Jésus dit au calvaire à Saint Jean « Voici ta mère », eh bien ce n'est pas pour rien. Et vous savez que Jésus, ayant dit cela, dit « Enfin, j'ai soif ». Voyant que tout était accompli, Jésus dit « J'ai soif ». J'ai soif d'être rempli totalement de l'Esprit-Saint pour pouvoir le donner au monde. Seulement, cet Esprit-Saint ne sera répandu dans le monde qu'en collaboration avec Marie, Mère de l'Église. Bien sûr, ce n'est pas du jour au lendemain que les chrétiens ont compris tout ce qu'il y avait derrière ces trois mots « Voici ta mère ». Vous savez que l'Église prend progressivement conscience de toutes les richesses qui se trouvent dans son donné révélé. Alors, la petite Thérèse a vécu éminemment cela. Il ne semble pas qu'elle ait jamais lu Grignon de Montfort. Mais elle a reçu, alors qu'elle était novice, en juillet 1889, ça me plairait que ce soit la fête de Notre-Dame du Mont-Carmel, mais on n'en est pas sûr, elle a reçu une très grande grâce qu'elle n'a confiée que tout à fait à la fin de sa vie, en juillet 1897. Elle était en train de prier dans un ermitage du jardin du Carmel de Lisieux, tout près du cimetière, un ermitage dédié à Sainte Marie-Madeleine, une toute petite grotte sans profondeur, même pas un mètre de profondeur. Elle était en train de prier là, quand tout à coup, elle s'est sentie enveloppée par le manteau de Marie. Il y avait comme un voile jeté pour moi sur toutes les choses de la terre. J'étais entièrement caché sous le voile de la Sainte Vierge. En ce temps-là, on m'avait chargé du réfectoire, et je me rappelle que je faisais les choses comme ne les faisant pas. C'était comme si on m'avait prêté un corps. Je suis resté ainsi pendant une semaine entière. Toute la piété mariale de Thérèse fut marquée par cette expérience. Elle comprit pour toujours ce qu'explique Saint Louis Grignon de Montfort. Nous devons vivre notre vie chrétienne en Marie. Elle est le sein maternel dans lequel nous avons le droit et le devoir de nous abandonner pour y être formés à l'image de Jésus. Et dans ses poèmes, Thérèse va sans cesse chanter cette joie de vivre sous le voile virginal de Marie. Dès la première strophe de la première poésie qu'elle compose pour faire plaisir à Sœur Thérèse de Saint-Augustin, elle fait allusion à ce voile de Marie. « Ah, laisse-moi me cacher sous le voile qui te dérobe à tout regard mortel, et près de toi, au matinal étoile, je trouverai un avant-goût du ciel. » Un thème qui revient dans la poésie numéro 5, mon chant d'aujourd'hui. « Ô Vierge Immaculée, c'est toi ma douce étoile qui me donne Jésus et qui m'unis à lui. Ô Mère, laisse-moi reposer sous ton voile, rien que pour aujourd'hui. » Elle désirait entrer au Carmel pour se cacher à l'ombre du scapulaire de Notre-Dame, et voici que ce désir est énormément exaucé, puisqu'elle se sent pendant toute une semaine enveloppée par le voile de Marie. Je pense que pour avoir une piété mariale complète, il faut recevoir, non pas cette grâce mystique que Thérèse a reçue, bon, parce qu'elle était destinée à, si vous voulez, à être docteur de l'Église, mais sans avoir cette expérience-là, il suffit de savoir que nous sommes en Marie. Et je pense que la chasteté, notamment, aussi bien pour les hommes et les femmes mariées que pour les célibataires non consacrés et les célibataires consacrés, je pense que la chasteté est beaucoup plus facile quand on se laisse virginiser, comme dit Thérèse, par le voile virginal de Marie. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, et surtout que celui qui reçoit la grâce du Saint-Esprit pour comprendre, comprenne. Donc, c'était mon deuxième point. Marie, un voile, un manteau qui nous enveloppe, qui nous protège,